IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'avoir choisi d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio et bienvenue dans cette émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans ou aux associations, des passionnés qui créent, gèrent et concourent à la vie économique, sociale ou politique. Aujourd'hui, vendredi 17 octobre 2025, nous allons parler patrimoine, mais pas n'importe quel patrimoine, celui du Vexin français, l'un des 300 pays qui font la France. Au nord-ouest de l'Île-de-France, le Vexin français est une entité naturelle et historique bien identifiée. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Boulanger-Mouflette, président de l'association Les Amis du Vexin français. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour, ravie d'être parmi vous.
Marie-Claude, je précise que vous êtes officier des Palmes académiques, chevalier dans l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Donc un honneur pour nous de vous accueillir.
L'honneur est partagé.
À vos côtés, Christine Demeaux, secrétaire générale des Amis du Vexin français. Bonjour Christine.
Bonjour Jacqueline.
Et à vos côtés, Étienne de Manito, vice-président des Amis du Vexin français. Bonjour Étienne.
Bonjour Jacqueline.
On ne voudrait pas vous appeler par vos prénoms.
Non, on y va comme ça, c'est bien.
Eh bien, bienvenue chez IDFM Radio et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Avant de vous donner la parole, nous allons renouer ce matin avec une chronique qui me tient à cœur, une chronique culinaire, parce que la gastronomie, comme le patrimoine, se transmet et se partage. Une chronique désormais assurée tous les mois par Marine Roland, alias Mimi Cuisine. Et aujourd'hui, en octobre, mois des feuilles dorées et des récoltes généreuses, Mimi Cuisine nous invite à célébrer les produits de saison qui réchauffent les cœurs et les assiettes avec une recette simple, locale et pleine de sens.
Bonjour, c'est Marine Roland de Mimi Cuisine. Bienvenue dans Mimi dans ta cuisine. En octobre, les couleurs changent dehors et dans nos assiettes aussi. Alors aujourd'hui, je vous propose un gratin automnal, ultra réconfortant, un gratin de courge butternut, feta et noisette. La courge butternut, c'est cette belle poire orange à la chair douce. Une fois rôtie au four, elle devient fondante, presque sucrée. Et dans cette recette, on vient casser la douceur avec de la feta bien salée et apporter du croquant avec quelques noisettes torréfiées. Pour le faire chez vous, il vous faut une courge butternut, 100 g de feta, une poignée de noisettes, une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive, sel et poivre. On commence par couper la courge en cubes, pas besoin d'éplucher, la peau est fine. On mélange avec un filet d'huile, l'ail émincé, du sel et du poivre et on enfourne à 200 degrés pendant 25 minutes. Une fois bien doré, on verse le tout dans un plat, on émiette avec la feta, on ajoute les noisettes grossièrement concassées, on remet au four pour 10 minutes pour que le tout gratine. Résultat, un plat complet, chaud, coloré, à la fois doux et contrasté, une assiette automnale qui fait du bien. Et si vous testez cette recette, je serai ravie de voir votre version. Envoyez-moi une photo sur mes réseaux sociaux Mimi Cuisine, ça me fera plaisir. Et on se retrouve le mois prochain dans Mimi dans ta cuisine avec une nouvelle recette de saison.
Merci Mimi Cuisine pour ce plat qui va réchauffer les cœurs et les estomacs.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et je retrouve mes invités, Marie-Claude Boulanger, présidente de l'association Les Amis du Vexin français, Christine Demeaux, secrétaire générale, et Étienne de Manito, vice-président. Marie-Claude Boulanger, je suis ravie de vous accueillir dans nos studios avec Christine et Étienne. Nous nous sommes rencontrés à Villarceau lors de l'inauguration du potager du château de Villarceau, en présence de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Et vous avez tout de suite suscité mon intérêt pour votre association des Amis du Vexin Français, puisque j'ai bien compris que vous étiez très attaché à votre territoire. Un territoire donc riche de saveurs et d'histoire à préserver. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter les uns après les autres. Donc vous, Marie-Claude.
Tout à fait. Disons que le Vexin français, à titre personnel, mais très cher, puisque j'y ai des ancêtres depuis très, 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 très longtemps.
Vous êtes remonté jusqu'à quelle date?
Jusqu'au XVIe siècle. D'accord. J'ai même une rue à mon nom dans la ville de Méru.
Bon, très bien.
Et effectivement, mes ancêtres paternels sont issus du Vexin depuis très très longtemps. Voilà. Donc c'est un attachement affectif qui a fait que, en faisant des recherches, j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de rencontrer aux archives de Pontoise Jacques Dupaquier, qui est un des fondateurs bien sûr de l'association et qui m'a gentiment recruté, sans guillemets, en disant: avec votre pédigré, il faut que vous me rejoigniez. Donc, je dirais qu'à l'affection que je porte au territoire, c'est immédiatement joint un intérêt pour l'ensemble des patrimoines vexinois. Et j'y ai fait là des rencontres magnifiques, dont celle de l'actuel vice-président, qui fut mon président précédemment, et de Christine, ici présente, qui joue un rôle extrêmement important sur le plan culturel dans le Vexin, notamment avec son association LEAC.
Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, on peut dire que vous êtes quand même une figure engagée depuis près de 6 décennies pour la préservation des patrimoines naturels, paysagers et culturels de cette région emblématique. Alors, je vais peut-être donner la parole à Étienne, parce que vous êtes le vice-président. On va respecter l'ordre du bureau. Donc, Étienne de Manito, je vous laisse vous présenter.
Eh bien, également bien ancré dans le territoire depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Et ancré également par ma profession d'agriculteur. Et ceci me donne la signification du long terme, c'est-à-dire que nous souhaitons préserver et développer les qualités du territoire, parce que sur le long terme, au-delà des péripéties annuelles, au-delà des générations, eh bien, le territoire, le bâti, le paysage, tout ça, c'est ce qui perdure. Et il est important qu'on ne le dégrade pas. Et donc voilà, il faut que ça vive d'une part, il faut pas que ce soit figé, mais il faut que ça perdure. Donc voilà le sens de mon engagement également.
Très bien. Vous êtes agriculteur céréalier?
Voilà, je suis agriculteur céréalier, je n'ai pas d'élevage.
Oui.
Dans la partie ouest du territoire.
Mm-hmm. Très bien.
Donc céréalier, ça veut dire ce qu'on appelle grande culture, avec aussi une production de sucre, de betteraves. Enfin, je produis pas du sucre, je produis des betteraves. Et puis une production de lin.
Très bien. Ah oui, donc que des produits nobles. Merci Étienne de Manito. Christine Demeaux, je vous laisse vous présenter à nos auditrices et auditeurs.
Alors moi, je suis Christine Demeaux, donc je suis tombée dans le Vexin il y a 50 ans, 53 ans maintenant, en épousant mon mari qui était d'une famille, de longue famille dans le Vexin, avec un château et une exploitation agricole. Donc récemment, après la mort de mon mari, un de mes fils a repris la ferme. Et comme Étienne, c'était une ferme céréalière, mais avec les vicissitudes de l'agriculture actuellement, et comme il était très branché sur les chevaux, il a tout mis en pâture et voilà, ce sont des chevaux uniquement maintenant.
Aujourd'hui, très bien. Donc c'est
moi,
c'est
de
tout
mon
à
côté,
fait
j'ai développé le côté artistique en créant une association de lieux d'exception et artistes contemporains qui fonctionne depuis 13 ans maintenant.
Très bien. Bah, voilà. Il faudra nous en dire un mot également de cette association. Eh bien, merci pour vos présentations qui plantent un petit peu le décor. Marie-Claude Boulanger, donc je précise quand même, parce que vous êtes peut-être trop modeste pour le dire, mais vous êtes professeur honoraire.
Proviseur, pardon.
Oui, j'ai mal lu. Proviseur honoraire, agrégé de lettres modernes et spécialiste de sociologie. Vous alliez rigueur académique et passion militante pour défendre donc un territoire qui s'étend sur 4 départements, le Val d'Oise, l'Oise, les Yvelines et une partie de l'Eure. Votre association, donc, elle a été fondée en 1967, c'est ça ?
Tout à fait. Elle a été fondée en 1967 et le père d'Étienne faisait partie des fondateurs. Nous avons consacré d'ailleurs une de nos revues à l'anniversaire des 50 ans, si ma mémoire est bonne, sur la création de cette association. Et je dirais que nous sommes ici très clairement des héritiers d'une part des fondateurs de l'association et, comme nous l'avons vu tout à l'heure, du Vexin.
Oui, je vois aussi que cette association a joué un rôle clé hein, dans la création du parc naturel régional du Vexin français, qui aujourd'hui est dirigé par Benjamin Demailly, que nous connaissons bien chez IDFM Radio. Donc, c'est dire quand même l'importance de votre association.
Tout à fait. Nous avons, il y a 2 ans, officialisé, je dirais, ce parrainage, puisque nous avons signé avec Benjamin Demailly une convention de partenariat entre les Amis du Vexin français et le parc naturel du Vexin français. Et le président du parc, d'une manière à la fois affectueuse et humoristique, m'appelle régulièrement sa marraine,
ce qui est
tout à fait symbolique.
Il a beaucoup d'humour. Et
voilà,
c'est vrai, c'est quelqu'un de... On sent que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, hein, Benjamin.
Tout à fait. Et donc, nous travaillons... Avec le parc, pas seulement, puisque le territoire sur lequel nous pouvons agir est beaucoup plus vaste, mais nous, effectivement, symboliquement, étant donné que nous sommes à l'origine de la création du parc, nous avons une relation tout à fait privilégiée avec le parc.
Très bien. Alors aujourd'hui, il y a des enjeux majeurs hein, qui mobilisent votre action. Expliquez-nous, si l'un d'entre vous veut prendre la parole, comment articulez-vous préservation du patrimoine et puis développement territorial ? Parce que je pense que l'enjeu majeur, c'est celui-ci. Étienne ?
Eh bien, attaquons sur un sujet immédiat qui est l'énergie, création de... d'installations de méthanisation.
Oui.
Méthanisation de produits agricoles ou éventuellement méthanisation de produits organiques issus de, d'autres sources. On est là dans la problématique classique d'une association comme la nôtre qui consiste à vouloir d'une part faire vivre le territoire, s'adapter à la situation économique, énergétique, etc. Et d'autre part,
préserver,
c'est-à-dire de ne empêcher que les choses se fassent de façon anarchique, si on veut, mais d'une façon qu'on regretterait par la suite. Et donc, les quelques projets qu'on a regardés, on a été sourcilleux et attentifs, avec une ligne directrice que c'est une évolution ou c'est une installation normale dans un territoire rural, mais que on peut pas, compte tenu de l'implication paysagère d'une part, de l'implication sur la vie des habitants, sur la circulation sur les routes, la circulation de tracteurs, de poids lourds, etc. On peut pas faire ça n'importe comment
tout et n'importe quoi.
Où.
Oui.
Et donc on discute avec les promoteurs de ces installations, de ces créations, dans cet esprit-là. On a demandé au préfet de notre département du Val-d'Oise que le ou les projets passent dans ce qu'on appelle la commission commission des sites et des paysages. Le préfet ne nous a pas suivis pour le moment. Je pense qu'il va évoluer, bien sûr, mais il nous a pas suivis pour le moment parce que il voit ça comme un frein à l'établissement de ces méthaniseurs. Et nous, on explique qu'on veut pas du tout bloquer, mais simplement on veut accompagner l'installation, accompagner la création.
C'est voilà. Ça, avoir un regard pour éviter que des erreurs soient commises irréparables.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Irréparable. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, donc ça, c'est un bon exemple. Ça illustre bien le fait qu'on veut accompagner la dynamique du territoire, mais qu'on veut qu'elle soit respectueuse d'un certain nombre de paramètres.
C'est ça. Et vous, compte tenu de votre domaine, vous êtes bien placé pour pouvoir parler de ce sujet.
Oui, alors moi je suis pas impliqué personnellement dans une installation de méthanisation, et d'ailleurs on s'implique à plusieurs agriculteurs en général, oui. quand on le crée, mais j'ai aucune objection.
Non, je comprends bien.
Si quelque chose peut se créer dans mon de pas trop loin de moi, je participerai à l'élaboration de ce projet.
Ce que je veux dire, c'est que vous êtes une personne donc qui vous avez une expertise qui permet justement d'apporter.
Alors j'ai un peu plus d'expertise que d'autres, oui, parce que je travaille sur le vivant, bien parce sûr, qu'effectivement ouais. je produis de la matière organique qui pourrait aller dans ces méthaniseurs.
Je comprends. Merci Étienne de Manitou. Marie-Claude Boulanger.
Pour rester dans le domaine de la production d'énergie, il y a un autre mode de production contre lequel, en revanche, nous sommes tout à fait opposés sans nuance.
Oui.
C'est celui de l'implantation des éoliennes. Alors, la question ne se pose pas à l'intérieur du parc. En revanche, elle se pose dans un autre territoire où nous pouvons intervenir, qui est l'Oise. Et nous avons en cours un dossier extrêmement sensible qui est l'installation éventuelle d'éoliennes dans la vallée de l'Epte.
Ah oui.
Et en particulier la partie que nous baptisons la vallée Pissarro. Nous avons même diligenté une conférence culturelle sur Pissarro. Et là, nous avons un véritable chantier culturel en marche. Et nous souhaitons même aller jusqu'au classement de cette partie de la vallée de l'Epte en site remarquable.
D'accord,
c'est vraiment un de nos chantiers extrêmement importants. Et par deux fois, à la différence du Val d'Oise qu'on vient d'évoquer, le préfet de l'Oise a refusé aux promoteurs l'installation de ces éoliennes, mais une entreprise, l'entreprise à l'heure actuelle étrangère, à nouveau a déposé
fait
un
du
recours.
Lobbying pour,
voilà, ouais, voilà. Ouais. Et nous sommes sur le front.
Là, je comprends.
Voilà, sur ce dossier-là, parce qu'il est évident que l'installation d'éoliennes dans la vallée de l'Epte, à l'endroit où Pissarro a peint, serait une catastrophe culturelle et, comme vous dites, irrémédiable. On ne pourrait pas y revenir. Voilà.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui,
donc
des
là,
endroits.
Nous avons à la fois un enjeu paysager en tant que tel et un enjeu culturel.
En vous écoutant, je parle un tout petit peu de moi pour vous dire que j'ai eu l'opportunité de visiter une région de l'Inde, hein, dans le nord de l'Inde, et nous avons visité un site remarquable avec des cénotaphes. Sauf que derrière, il y avait plein d'éoliennes et il y avait un contraste assez cuisant, quoi, quelque part. Hein. C'était un petit peu dommage.
C'est un contraste qui ressort du massacre.
Oui, carrément. Merci, merci à tous les trois. Avant d'enchaîner sur plus de questions, si on écoutait Bienvenue chez moi, un titre de Florent Pagny, et on se retrouve juste après.
La pluie fait rage, quand partent les ans, quand la rue te vole tes nuits, quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui donnerait tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse, quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi qui changes ton adresse, tu seras bienvenu chez moi, bienvenu chez moi, pour
partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Souvent les lèvres sont sèches et les portes sont closes quand la ville s'endort. Le corps est fatigué quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que des barreaux solides communique des corps. À ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Il y a toujours un soleil dans les larmes que tu verses. Et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse. Toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent. Oh, sois le bienvenu chez moi. Bienvenu chez moi. Sans or et sans promesse, j'ai tant à apprendre de toi. Tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Que ce que tu crois. Et si tu veux crier tes désirs, et si tu peux pleurer sans rougir, et si tu peux
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, nous parlons de patrimoine dans le Vexin, en compagnie de Marie-Claude Boulanger, présidente des Amis du Vexin français, Étienne de Manitou, vice-président, et Christine Demeaux, secrétaire générale. Alors, on a bien compris hein, que vous étiez vent debout pour empêcher...
Vent debout, le mot est juste.
pour empêcher une implantation d'éoliennes dans la vallée de l'Epte. Je voudrais qu'on revienne peut-être à vos missions fondatrices des Amis du Vexin, et puis... la façon dont elles ont évolué depuis 1967. J'ai vu que vous aviez contribué à justement limiter l'urbanisation galopante autour de Cergy.
Nous n'étions pas encore là, ce sont nos aînés qui étaient là, mais effectivement la raison d'être de la création de l'association, c'est d'empêcher, je dirais, le massacre du Vexin par une urbanisation qui était effectivement galopante, et la création de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise a été l'élément déclencheur. Et le travail de nos fondateurs a été sur ce point extrêmement efficace, puisqu'effectivement le Vexin a été sauvé.
Préservé.
Et voilà. Et la création du parc n'est venue que bien après. C'est dans la même ligne, mais le travail des fondateurs a été de préserver de ce mitage et de cette urbanisation un territoire qui n'aurait pas l'identité qu'il a à l'heure actuelle, bien entendu.
Cette association avec le parc naturel régional du Vexin, est-ce que ça vous avez le sentiment que ça renforce votre légitimité sur le terrain?
Tout à fait. Enfin, disons que c'est une remontée aux sources, d'une certaine façon. Bon, cela renforce notre légitimité, ça renforce aussi, d'une certaine façon, aussi celle du parc.
Il y a une synergie.
Puisque le parc remonte à ses sources, et nous travaillons conjointement à la protection, tout en acceptant la dynamisation, on l'a vu tout à l'heure, de ce territoire. Et nous avons des actions communes, notamment culturelles. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, nous avons mis en place déjà plusieurs séries de conférences avec la collaboration du parc, et nous avons un projet innovant pour nous qui est en février 2026, une manifestation que nous appelons Lecture en Vexin, que je n'appelle pas volontairement Salon du Livre parce que c'est pas ça, c'est le fait d'inviter au cours d'une manifestation au parc, dans les locaux du parc, avec le parrainage du parc, tous les gens qui, au sein du Vexin français, écrivent, voilà, quel que soit leur mode d'écriture, quel que soit le sujet, de façon à ce que nous puissions illustrer auprès du public la richesse culturelle que recèle le Vexin.
Donc ça va se passer à Théméricourt.
Passer à Théméricourt. Ce sera dans les locaux du parc, dans une salle qui symboliquement porte le nom de notre fondateur, puisque ça s'appelle la salle Jacques Dupaquier, dans laquelle nous faisons. C'est là aussi où nous faisons les conférences. Et dans cette salle, effectivement, nous inviterons le public à venir voir ce qui se publie, ce qui s'est publié, et éventuellement acheter des œuvres à tous les Vexinois ou intéressés aux Vexins, qui ont publié quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui se veut riche et en même temps pluriel.
Alors, pour l'anecdote, un des présidents de la radio, qui existe quand même depuis 42 ans, il y a eu un Dupaquier. Mais je ne sais pas s'il y a une... Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, j'avoue que je n'en sais rien.
C'est quel Dupaquier ?
Jean-François. Vous l'avez connu ?
Oui. Alors c'est donc.
Et il y a un lien de parenté ?
Oui, ce sont Jacques Dupaquier dont on parle, qui est donc
l'académicien,
un peu un dieu pour nous, avec trois fils. Et c'est ce Jean-François qui est un des trois fils.
D'accord. Ah bon, écoutez, parce que je me suis toujours posé la question. Et donc il y a un élu à Pontoise qui s'appelle Dupaquier.
Tout à fait, qui est son frère.
Et c'est ça.
D'accord. Et qui est adhérent chez nous.
Vous venez de répondre à une de mes interrogations.
Et qui est adhérent chez nous et qui s'emploie à ce que la commune, la municipalité de Pontoise soit aussi adhérente aux Amis du Vexin français.
Très bien. Écoutez, bravo. Merci pour cette précision qui, ça ne m'empêchait pas de dormir, mais voilà, j'avais envie d'avoir des précisions. Et vous, Christine Demeaux, alors dans cette exposition qui va avoir lieu en février, vous avez votre
C'est pas une exposition, c'est
oui, ce c'est, salon, c'est un salon. Salon. Oui.
Donc pour l'instant, oui, ça m'intéresse. Je suis pas écrivain, donc je ne vais pas participer directement. Mais par contre, j'aimerais bien vous parler d'un autre problème qui touche notre propriété, qui est la mérule.
Oui, ah oui.
Donc
oui.
La mérule dans le Vexin, ça se propage. Nous avons eu une grosse attaque qu'on n'a pas vue tout de suite parce que sous les boiseries, ça ne se voit pas.
Donc il faut préciser que c'est un.
C'est quoi la mérule ?
Il faut préciser que c'est un champignon.
C'est un champignon qui attaque, qui mange le bois et qui attaque la pierre, qui traverse la pierre. On a l'habitude d'appeler ça le cancer des maisons, mais on a trouvé des traces. Enfin, j'ai un petit-fils qui a trouvé des traces de mérule au Moyen-Âge aussi, et même dans l'Antiquité. Donc voilà, ça vient, ça arrive de plus en plus dans des maisons classées comme la nôtre, mais d'autres maisons plus modestes qui sont près de l'eau ou n'importe.
C'est un surcroît
d'humidité. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait d'un surcroît d'humidité. Et en ce qui nous concerne, on ne pouvait pas voir l'arrivée de l'humidité. C'est en voyant le champignon sortir qu'on a cherché, mais pourquoi il sort ?
Voilà.
Donc, enfin, tout ça, c'est des gros travaux. Heureusement, on est très aidés par la DRAC, mais il y en a quand même beaucoup pour le propriétaire. Et c'est quelque chose qui attaque. Il y a il y a 50 ans, c'était la guerre, on était bombardés, encore avant, il y avait autre chose.
Oui,
donc c'est
oui,
comme la vie humaine, la vie des maisons, ça va, ça vient, mais il faut être très vigilant. Voilà.
Est-ce qu'il y a des moyens technologiques qui permettent de...
Oui, c'est très efficace, des gens très compétents, mais c'est lourd, surtout quand ça impacte.
Quand ça apparaît, Et quand ça apparaît, c'est pas trop tard?
C'est un peu tard parce que, si vous voulez, moi, quand je m'en suis aperçue, c'était un petit champignon. Donc, on m'a expliqué que ce champignon, c'était le fruit et que c'était ce champignon qui propageait. Donc, très vite, l'expert, même avant, l'a ramassé, brûlé, etc. Et puis après, un an après, il y a eu la déconstruction des boiseries, le traitement, tout ça, c'est assez lourd. Puis après, il faut reconstruire. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à la pierre. Si vous avez du plâtre, il faut enlever le plâtre et aller jusqu'à la pierre.
Oui, faut...
Donc après, c'est 1,50 m à droite, à gauche. C'est vraiment un peu dément quand même comme histoire.
J'avais su que le château de Vigny était
très impacté, mais c'était un château qui n'était pas très habité. Il y avait des Chinois qui avaient une école de cuisine là, et en fait c'était dans les communs et le château n'était pas tellement habité. Donc on peut le comprendre ça, mais il a été très 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 impacté. Mais maintenant on en voit.
Oui, c'est ça.
Partout,
en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est pas le fait d'y vivre qui empêche la mairie de se propager.
Voilà. Le château a beau avoir le nez dessus, on arrive à ce que ça nous échappe, parce que c'était imprévisible.
Le château de Bourry, dans l'Oise, la charpente du château de Bourry a été très affectée, a été refaite d'ailleurs, pratiquement.
Je voudrais revenir, parce que je comprends que c'est un sujet quand même prégnant, je voudrais revenir sur cette implantation d'éoliennes. Comment vous réagissez face aux détracteurs de vos positions?
Aux détracteurs?
Oui. Il doit y en avoir.
Non, les seuls détracteurs que nous avons face à nous sont les promoteurs, en réalité. Et nous n'avons pas de contact direct avec eux, puisque le promoteur, notamment du chantier qui nous préoccupe particulièrement, est un promoteur étranger. Bon. Donc, nous engageons avec une association locale qui a pris les choses en main de manière très efficace, des actions en justice, tout simplement.
Oui, c'est ça.
Fort de deux décisions préfectorales qui nous sont favorables, eh bien nous sommes à nouveau à attendre la décision de justice devant le recours de l'entreprise asiatique qui veut revenir sur les deux décisions du préfet.
De cette décision de justice.
Voilà.
Et donc
de justice et préfectorale, les deux.
Donc votre meilleur argument, c'est ce classement en site remarquable, mais c'est une procédure complexe. Où en est le dossier actuellement?
Écoutez, le dossier, il est à l'heure actuelle en appel, on attend. On attend. Et parallèlement, nous engageons le dossier de création de ce classement en site remarquable qui serait évidemment un rempart durable. Nous avons sollicité les élus locaux. Disons qu'il y a une volonté commune, manifestement, pour arriver à ce classement et cette protection.
Oui. Vous êtes combien dans votre association, les Amis du Vexin Français?
On est à 500 à peu près.
Oui, de Manitou. C'est difficile de répondre exactement.
Mais globalement,
entre 3 ou 400 et 500.
C'est une belle association.
Nous avons des communes, un certain nombre de communes qui étaient plus nombreuses, évidemment, du temps de la création, dans la mesure où c'était vraiment une création de combat, au départ. Mais nous avons tout de même un certain nombre de communes qui sont vigilantes et adhérentes. Ce nombre augmente d'année en année parce que les maires prennent conscience de l'enjeu, et tiennent à ce que, ensemble, nous protégions leur propre patrimoine.
Est-ce que je peux revenir
faire
un tout petit complément sur les éoliennes aérogénérateurs? Parce que on a démarré notre entretien en parlant des méthaniseurs. Et il y a un aspect technique, c'est que le méthaniseur, techniquement, il n'est pas critiquable. l'aérogénérateur ou l'éolienne, techniquement, elle est très critiquable.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur une question de paysage esthétique, etc., que on peut considérer comme superflu parce que la vie n'est pas facile, etc. On est d'abord sur une question technique, que l'aérogénérateur, il fonctionne quand il a le temps, quand il y a un peu de vent, quand ceci, quand cela, et qu'il ne peut pas vivre sans une source d'énergie permanente qui prennent le relais. Et donc, en fait, c'est difficile à gérer pour les producteurs d'énergie, pour Enedis. D'une part, c'est difficile à gérer, et d'autre part, ça délégitime complètement l'intérêt de ces éoliennes. Donc ça, c'est à la base. Alors après, on va constater que au pied des éoliennes, il y a une masse de béton de plusieurs dizaines de tonnes.
Qui probablement ne partira jamais, même si on devait enlever les éoliennes.
Qui sera trop onéreuse à faire partir. Ouais. On va constater que le jour qu'on veut recycler l'éolienne, on peut pas parce que c'est des matériaux qu'aujourd'hui on ne sait pas recycler. On va constater toutes ces considérations techniques qui cassent le projet d'éolienne, à part l'espèce de mode politique, mais qui cassent la légitimité d'éolienne. Et cerise sur le gâteau, l'aspect esthétique, parce que tout ça n'est pas bon. Et puis en plus, ça industrialise la campagne, le paysage.
Oui.
Et donc l'éolienne, c'est vraiment le mauvais. Le mauvais projet. Mais je veux aussi ajouter que au sein du parc naturel, la question s'est posée à un moment en se disant il est nécessaire de trouver des autres formes d'énergie. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, etc. Et donc l'éolienne, il faut quand même regarder si par hasard on va pas en faire, parce que de toute façon, faut trouver des formules. Et heureusement, un certain nombre de personnes ont sorti ces arguments techniques que je rappelle là, en partie. Et puis l'argument esthétique, et il y a eu devant les quelques promoteurs qui pouvaient être des personnes officielles de la région, par exemple, c'est la région qui finance le parc. Il y avait en face de ces promoteurs, il y a eu une levée de boucliers.
D'accord.
Notre position. Nous, association, à ce moment-là, bien sûr, on a fait la levée de bouclier, mais nous, association, elle a été constante et elle tient aujourd'hui toujours sur les mêmes arguments.
Oui, je comprends. Oui, vous avez vraiment un dossier, on va dire, pour faire un mauvais jeu de mots, béton.
Voilà.
Voilà. Très béton. Bien. Bon, merci beaucoup, Étienne de Manito, d'avoir apporté ces précisions. Je propose qu'on marque une nouvelle pause. On va écouter le duo Icar et Axel Red, d'autres que nous. Et on se retrouve juste après pour continuer cet échange passionnant sur les amis du Vexin français.
Les murs se souviennent-ils de nous, de nos promesses? Il m'arrive de me rendre à la presse de notre grand amour.
Je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre, confiant sourire au coin des lèvres. Et puis je lève la tête, je vois qu'il y a de la lumière, d'autres que nous.
Ils passeront leur nuit d'hiver au coin du feu doux.
D'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. D'autres que nous ferons la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous ferons pareil, 14 boulevards Saint-Michel.
Les voisins se souviennent-ils de nous, de notre tendresse? Je retourne à notre ancienne adresse pour en découdre.
Le digicode n'est plus le même, la gardienne à la retraite. Alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de lumière, d'autres comme nous.
Pleurs de chagrin sous un réverbère, loin des feux doux.
D'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. D'autres que nous ferons la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours.
d'autres comme nous feront pareil. 14 boulevard Saint-Michel.
On n'avait rien, on était tout. On était nous.
On n'avait rien, mais on était tout.
Comme d'autres avant nous.
D'autres comme nous, on fait l'amour sous ces fenêtres. D'autres comme nous, on a vécu de longues nuits de fête. D'autres comme nous, on fait la guerre, oui mais peut-être. Ça me rendit pour toujours, la vie était tellement plus belle. 14 boulevard Saint-Michel.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. C'est l'économie en direct et nous poursuivons cette émission consacrée à une association très impliquée dans la sauvegarde du patrimoine du Vexin français. Les Amis du Vexin français, dont je reçois la présidente Marie-Claude Boulanger, le vice-président Étienne de Manitou et la secrétaire générale Christine Demeaux. Alors, je m'adresse à tous les trois. Pourquoi le Vexin français, Marie-Claude ?
Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais là, le Vexin français, en revanche, est une entité historique, géographique. Alors, l'histoire, bien sûr, est capitale dans cette affaire. Bon,
l'histoire avec un grand H. Hein.
Avec un grand
c'est
H,
ça.
Bien sûr. Hein. Je me permets de proposer aux auditeurs d'aller consulter sur notre site une petite conférence que j'avais donnée dans une de nos communes du 78 sur l'identité du Vexin français. Et on m'avait donné comme consigne, en somme, vous faites une conférence Vexin français pour les ceux qui ne savent pas ce que c'est.
Voilà. Oui, d'accord.
Et donc cette petite conférence, qui explique bien ce que ça veut dire. Bon, il y a deux Vexins, et avec à l'origine une population commune, deux Vexins qui sont liés à l'histoire de notre pays hein, et à la création de la Normandie. Bon.
C'est ça.
Et vous parliez de Saint-Clair-sur-Epte tout à l'heure. L'Epte est la frontière naturelle entre le Vexin normand, qui est devenu officiellement normand en 911, hein, moment où Charles le Simple a topé avec Rollon la
un
séparation
viking, hein,
des territoires.
Rollon,
le viking, bien
oui.
sûr, Rollon. Et à partir de ce moment, je dirais que deux types de civilisations se sont développées. Au nord, la Normandie, que Rollon avait déjà un petit peu occupé, disons, et au sud de l'Epte, le Vexin, qui fera partie de la France, le Vexin français.
Bon.
Et nous avons, on en parlera tout à l'heure dans, en parlant de nos revues, nous avons organisé, il y a deux ou trois ans, un rallye culturel sur ce thème, où nous sommes allés au cours de la journée un petit peu en Vexin français, un petit peu en Normandie, etc., où on voit que cette frontière entre le Vexin français et le Vexin normand a été l'objet très très longtemps, disons, de conflits,
oui, de tensions, oui.
de tensions hein. et même de tensions armées,
oui, bien sûr.
Par moment. Mmh. Et la dernière manifestation que nous avons illustrée à ce sujet est la visite de Gisors. Qui elle aussi est relatée dans notre revue, qui est un des symboles proches de chez nous de cette, je dirais, de cette séparation, de ce clivage entre le Vexin français et le Vexin normand. On remarque d'ailleurs, quand on passe l'Epte, curieusement, on regarde que l'architecture n'est pas la même,
oui,
le paysage n'est pas le même,
oui,
etc. Voilà.
Oui, c'est,
voilà. Donc le Vexin français est véritablement une entité, certes géographique, mais aussi historique.
Historique, oui, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est passionnant. Alors, je voudrais qu'on aborde votre outil de sensibilisation majeur, qui est votre revue annuelle.
Tout à fait.
Lorsque nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs, à Villarceau, vous m'avez tout de suite parlé de ce bijou hein, que j'ai près de moi, qui sont de très belles revues assez conséquentes, hein, donc qui doivent demander beaucoup de travail, parce que j'ai une petite expérience de ce côté-là, donc je me rends compte du travail fourni. Comment cette revue est-elle née ?
Au départ, historiquement, ce n'était pas une revue, mais lorsque les Amis du Vexin français, qui s'appelaient les Amis du Vexin français à l'époque, nous avons, lors de la révision de nos statuts, supprimé le « les », donc c'est Amis du Vexin français à l'heure actuelle. Lorsque les fondateurs, dont Jacques Dupaquier, ont fondé l'association, ils publiaient un petit bulletin périodique qui racontait leur combat. Le mot n'est pas neutre, c'est un mot qui était souvent dans la bouche et sur le papier. Bon. Donc ce petit bulletin expliquait où en étaient les combats pour sauver le territoire et les patrimoines du territoire du Vexin français. Donc, il y a maintenant 17 ans, je crois, oui, c'est ça, le président du moment, qui était François Marchand, m'a sollicité, j'étais adhérente depuis fort longtemps, je vous ai raconté, pour prendre en main tout ce qui était la production écrite. Donc, ensemble, au bout d'un certain temps, nous avons décidé que le petit format du bulletin ne convenait plus à notre projet, dans la mesure où nous étions dans un autre type de combat. Nous n'étions pas, en quelque sorte, non que nous soyons installés dans le confort, mais qu'il était important, nous voulions continuer à prolonger la protection du Vexin, il fallait que nous le fassions connaître. Et là, je me retrouve tout à fait dans les termes de Jacques Dupaquier, on ne peut aimer que ce qu'on connaît et on ne peut protéger que ce qu'on aime.
Ah oui.
Donc ce sont les trois étapes. Et donc notre propos à l'heure actuelle est bien sûr de rendre compte de nos combats, puisque vous avez vu, il nous en reste en termes de combat pur, mais que notre propos c'est de faire connaître je dirais les beautés au pluriel du Vexin, parce qu'il y a les beautés architecturales, les beautés paysagères, les beautés naturelles du Vexin, de faire connaître ces beautés de façon à les faire aimer et bien sûr entraîner que ce sentiment d'amour pour ces beautés puisse entraîner le combat pour leur protection.
C'est ça, là,
c'est
toujours,
ça l'idée.
Toujours avec l'idée en arrière-plan de la préservation.
Et comme vous le dites, ces productions écrites demandant énormément de travail, j'ai proposé au bout d'un temps que nous ne fassions qu'une seule revue par an, de façon à ce qu'elle soit véritablement l'aboutissement des réflexions et du travail d'une année entière, avec des plumes extrêmement compétentes, des plumes qui ont beaucoup de talent. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent pour nous. Et nous avons, effectivement, nous aboutissons à une revue de très très haut niveau.
Absolument.
Tant en ce qui concerne son contenu, qu'en ce qui concerne sa présentation.
Sa qualité, oui.
Parce que là, je dirais que c'est une question de respect. Pour nos adhérents et nos lecteurs. Le terme de vitrine est un petit peu vulgaire,
oui, galvaudé,
je dirais, au sens...
Oui.
Voilà. Mais c'est véritablement la vitrine de nos préoccupations chaque année.
Voilà. Je comprends.
Alors,
Il vous faut... il doit bien vous falloir une année pour le
construire. Année pour la construire.
Ça. Une fois que vous avez
La sollicitation des auteurs. Ensuite, bon, il y a tout le travail d'édition.
De rédaction, oui.
De rédaction, de contrôle
relecture.
Des rédactions, de relecture. Et ensuite, le travail de mise en page, bien sûr, d'illustration, l'iconographie est extrêmement importante, parce qu'il est évident que l'œil est le premier qui est attiré par notre revue. Donc le problème actuel est celui du coût de la revue. Nous ne voulons en aucune façon que sa qualité décline. Donc, nous sommes notamment à la recherche de sponsors qui accepteraient, par exemple, ou qui seraient tentés par le fait de publier des annonces publicitaires dans notre revue.
C'est ça, vous proposez aux entreprises ou autres des encarts publicitaires pour financer.
Tout à fait, pour financer notre revue.
C'est un tirage de combien d'exemplaires?
Nous en faisons 700.
700, oui, ce qui est pas mal quand même.
De façon à ce que nous en ayons. Le fait d'être adhérent donne ipso facto le droit de recevoir la revue.
C'est ça.
Mais cette revue est aussi, bien sûr, diffusée auprès de différents partenaires, de façon, comme on l'a fait pour vous, de façon à ce que les publics, responsables ou simples citoyens, puissent savoir quelle est la teneur de notre travail.
Très bien. Merci infiniment, Marie-Claude Boulanger. Je propose une nouvelle pause, quelques minutes. Nous allons écouter Francis Cabrel encore et encore. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.
D'abord vos corps qui se séparent, et seuls dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, et tu te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Personne devant, personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste, un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a des couples qui se défendent sur les lames de ton plafond. C'est toujours le même film qui passe. Toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio et nous poursuivons l'économie en direct, dédiée ce matin au dialogue et la transmission de la connaissance à travers le patrimoine du Vexin français en compagnie de Marie-Claude Boulanger, présidente amie du Vexin français. Je n'ai pas dit lait. Christine Demeaux, secrétaire générale, et Étienne de Manito, vice-président. Donc, hors antenne, Christine Demeaux, vous nous avez apporté plein de précisions sur cette fameuse revue. Ben, je vous laisse nous redire ce que vous venez de nous dévoiler tout à l'heure.
Donc, la revue qui est devenue très conséquente, très, très riche au point de vue aspect et au point de vue de la qualité des articles, vient nourrir le territoire. C'est-à-dire que la défense d'un territoire, mais quel territoire finalement ? Est-ce que c'est simplement pour empêcher la ville nouvelle de nous agresser ? Est-ce que c'est pour contre le mitage des constructions ? Ça, c'est vrai, ça a marché assez vite, mais il fallait qu'on nourrisse ce Vexin français de son histoire, de ces combats autres que les combats d'aujourd'hui. Et c'est la qualité et la qualité de cette revue qui fait que on est intéressé par les amis du Vexin. Mmh, voilà. Mmh,
je comprends.
Donc ça demande beaucoup d'investissement et ça demande de l'argent. C'est pas à vous que je vais apprendre que l'imprimeur ça coûte cher. Les coûts sont de plus en plus importants, mais il faut maintenir cette qualité, ce contenu et cette épaisseur de revue qui est quand même très conséquente. On veut pas diminuer de moitié ni la qualité ni la quantité. Donc voilà, on va être à la recherche de à peu près 5000 euros pour boucler cette revue dans sa qualité. Et on va faire probablement une demande d'encart publicitaire dans cette revue pour essayer de combler le manque à dépenser
l'impression voilà. de ce document. Alors, comment choisissez-vous les thèmes ? Et parce que d'une année sur l'autre, je pense que vous devez réfléchir et puis
tout à fait,
bien sûr. Marie-Claude.
Sûr qu'on réfléchit.
Pardon.
Je peux juste te dire un mot. Avec Marie-Claude, je lui avais dit au départ, mais occupe-toi des artistes parce que le PNR ne fait rien pour les artistes.
Oui.
Donc tu as une place à prendre. Voilà. Et elle a pris toute
sa place. J'ai dit.
Vous avez écouté le conseil de Christine.
Oui. La vie. Notamment, il y a tous les ans, depuis la création de l'EAC, un article sur ce que Christine organise dans son château tous les ans avec les artistes contemporains. Bon, c'est une tradition, ça aussi. Et effectivement, la vie culturelle du Vexin est en relation directe avec son patrimoine historique. Alors, le choix des articles, il y a des articles de fond, donc, et des articles, je dirais, traditionnels. Bon, on relate quels ont été nos combats de l'année. Il y a toujours un article sur l'EAC et il se passe des choses dans l'année au plan culturel. Et les auteurs des actions culturelles du territoire sont en général sollicités par mes soins.
Oui.
En général, de très bonne grâce, les responsables acceptent, qui sont en général de très haut niveau, acceptent de travailler pour nous. Mmh. Je précise que tous les auteurs sont bénévoles, mais j'y tiens beaucoup, restent propriétaires de leurs textes.
C'est ça,
Mais j'insiste sur le fait que les auteurs, quelle que soit leur qualité, sont bénévoles. Nous avons notamment, nous soutenons le travail d'un de nos géologues et adhérents, Monsieur Frison de la Motte, qui est un universitaire, que nous soutenons
c'est
aussi...
C'est un nom célèbre, Frison de la Motte.
Tout à fait, et que nous soutenons dans son projet de création de géoparc dans le Vexin. Voilà, nous sommes partie prenante dans cette affaire. C'est-à-dire que tous les articles reposent sur une position de notre part qui est une position de soutien et d'intérêt premier. C'est-à-dire que nous sommes toujours partenaires des auteurs qui écrivent dans notre revue.
Je comprends. Voilà. Oui, vous mettez un point d'honneur à,
voilà, tout
à avoir
fait,
cette
tout
relation.
À fait. Tout à fait.
Est-ce que cette revue peut avoir un impact sur l'adhésion des jeunes générations ?
Nous espérons.
Oui.
Parce qu'on est, quand
on est jeune, on est peut-être moins concerné par
la notion
la préservation du patrimoine.
De la transmission, nous l'avons évoqué dans nos deux dernières assemblées générales. la notion de transmission est pour nous capitale. Parce que il est évident que, certes, les plus anciens ont l'expérience, ils ont l'expertise aussi, mais la notion de sensibilisation des jeunes générations est quelque chose d'important. Et nous favorisons l'adhésion des jeunes par un tarif plus que préférentiel.
Oui, vous pouvez nous le dire,
oui,
ce
oui.
tarif
C'est combien?
C'est moitié tarif, je crois.
Oui, mais c'est voilà, quelle somme
Bon, le 49, ça doit être dans les 20. Dans les
18, 19 euros, quelque
chose
comme ça.
Ah oui, donc vraiment, c'est très abordable, oui.
Et donc, nous avons un certain nombre de jeunes qui adhèrent, et nous espérons, bien sûr, les sensibiliser au maximum. Bon, certains, j'ai même donné une responsabilité de délégation dans une commission à certains d'entre eux. Et je dirais que notre partenariat avec le parc en est un exemple parce que le président du parc est très jeune.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Très jeune et très engagé.
Il faut mettre dans la tête des lecteurs que le patrimoine, c'est pas une affaire de vieux.
Non,
le patrimoine,
absolument.
C'est une affaire d'appropriation de notre histoire, quelle que soit la génération à laquelle appartiennent ceux qui se l'approprient.
Je comprends. Alors, donc, on a bien compris, je le redis, parce que si nos auditrices et auditeurs voulaient participer à des encarts publicitaires dans votre revue, ils sont les bienvenus.
Tout à fait.
Que faut-il faire pour vous contacter, pour proposer ces...
Nous avons, le mieux, c'est de nous contacter par...
Amis du Vexin français.
Amis du Vexin français, de nous envoyer un petit mot, une proposition, et nous sommes particulièrement réactifs à tous les gens qui nous écrivent.
Bien sûr.
Bon, l'adresse mail est sur le site. Nous sommes joignables à tout moment.
Oui, très facilement.
Voilà, et nous sommes aussi très réactifs les uns et les autres.
Oui, je l'ai bien vu quand on s'est rencontrés, Marie-Claude, à Villarceau. Oui, Christine Demeau.
Oui, je voulais dire que les jeunes générations quand même s'intéressent au patrimoine, sont sensibles au patrimoine, mais ils construisent leur vie qui n'est pas toujours dans le Vexin et ils n'ont pas le temps. Mm-hmm. Alors on est aussi avide de remplacer les bénévoles.
Bien sûr,
on a besoin de jeunes
bénévoles
pour assurer la transition.
La transmission, voilà. Ouais.
Alors là, il y a la génération des seniors plus qui sont là encore valides, mais du coup,
il faut penser
par exemple des enfants qui ont 50 ans, qui sont tout à fait compétents, mais qui n'ont pas le temps de s'impliquer vraiment.
Oui. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas le temps. Peut-être que ils n'ont pas encore trouvé forcément l'intérêt, parce que
en ce qui concerne mes enfants, ils ont tout à fait l'intérêt.
Ah oui.
Mais ils ont des carrières à construire, des familles, à continuer en tous les cas, des familles à nourrir, des jeunes à éduquer, et voilà. Donc c'est important, s'il y a des gens qui ne savent pas à quoi s'impliquer, ils peuvent vraiment venir en bénévole, évidemment.
Nous avons, il faut le remarquer, des jeunes qui s'impliquent énormément. Nous avons en ce moment, par exemple, un problème de fonctionnement technique de notre site. Nous avons un jeune ingénieur informaticien qui s'implique quotidiennement, qui va nous résoudre le problème, etc. Bon, simplement, il faudrait peut-être que le nombre de ces jeunes augmente.
Étienne de Manito, vous participez, vous, à cette revue ?
J'écris peu.
Oui.
Mais je lis intégralement, bien sûr, et je participe par les contacts.
C'est ça, vous participez par la mise en place et tout de ce document. Bon, les encarts publicitaires sont un levier pour diversifier vos ressources. Est-ce que vous avez d'autres leviers?
D'autres leviers, les dons éventuels.
Oui.
On insiste beaucoup sur le fait qu'on peut être remboursé. Qu'on peut être remboursé d'une partie.
Vous avez fait, il y a des rescrits,
voilà.
Oui.
Donc voilà.
Et vous n'avez pas de subventions de la région?
Nous avons quelques subventions. Oui. Nous avons des partenariats, des subventions d'abord d'un certain nombre d'entreprises, et puis des départements, le département du Val d'Oise notamment, et de certaines mairies. Voilà. Nous sollicitons bien sûr au maximum la générosité à la fois des institutions et des particuliers.
Bien sûr. Christine Demeau.
Parce que les dotations, ça va pour le budget principal,
oui.
Mais nous sommes à la recherche de 5000 euros pour garder la quantité et la qualité de la revue, et ces encarts publicitaires, ils seront
spécifiques.
à la revue.
C'est ça. Oui, oui, je comprends. Voilà. Oui, c'est un budget vraiment.
Donc voilà, c'est une autre manière de solliciter sur un sujet bien précis.
Nous avons eu un don d'une entreprise nationale et multinationale même qui est affectée à la revue.
À la revue, oui, essentiellement. On arrive doucement à la fin de cette émission. On fait une dernière pause et on va écouter Michael Miro. Et son titre phare, L'horloge tourne.
Un SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides. Et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Dame, dame de haut, oh, oh. Un SMS vient d'arriver. J'ai 20 ans, on l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame de haut, oh, 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 oh. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés et toujours pas d'enfant. L'horloge tourne, les minutes se dérident et moi je rêve. Tranquille, je prends mon temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans. Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides. Et moi je rêve que passe le mauvais temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 28 ans. Mamie est bien fatiguée, mais je suis plus un enfant. L'horloge tourne, mais son cœur se suicide. Et moi je rêve du bon vieux temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS va arriver, j'aurai 30 ans. 30 ans de liberté et soudain le bilan. L'horloge tourne, les minutes sont des rides. Et moi je rêve d'arrêter le temps. Dame, dame des hauts.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio qui se poursuit avec à mes côtés Marie-Claude Boulanger, présidente de l'association Amis du Vexin Français, Christine Demeaux, secrétaire générale, et Étienne de Manito, vice-président. Je suis désolée, Étienne, je vous cite en troisième alors que vous devriez être en deuxième. Je suis désolée.
Deux femmes, c'est
voilà,
parfait.
Voilà, c'est ça. Honneur aux femmes. Écoutez, je voulais vous dire que j'ai trouvé passionnant toute cette émission et je pense qu'il faudra que vous reveniez parce que je pense qu'on n'a pas tout dit. Mais là, avant de conclure, quels sont les chantiers prioritaires pour 2026?
Alors les chantiers prioritaires au plan du combat, ce sont toujours notre combat contre les éoliennes de la vallée de l'Epte, assez capitale, et la création du site remarquable. Nous avons d'autres chantiers culturels, notamment dans les Yvelines. Nous souhaiterions faire revenir à Gargenville l'orgue de salon des Sœurs Boulanger. Il y a eu dans deux de nos revues un corpus sur les maisonnettes de Gargenville et sur les Sœurs Boulanger. C'est un, je dirais, un chantier culturel un petit peu de longue haleine. Voilà. Et chaque fois qu'un problème se déclare, ça n'est pas toujours prévisible. Hein. La protection d'un bâtiment, la mise en danger d'un lieu, eh bien, nous sommes sur le pont. Et à ce moment-là, nous intervenons et nous en parlons dans notre revue.
Quels sont vos liens avec la Fondation du patrimoine ?
Nous avons un lien de partenariat avec la Fondation du patrimoine. Nous avons, au cours de l'année 2025, organisé une conférence donnée par le président départemental de la Fondation du patrimoine dans le 95. Nous avons des liens de partenariat et j'ai sollicité la Fondation du patrimoine pour l'événement de février.
Du 8 février 2026.
Voilà, de façon à ce qu'ils viennent pouvoir exposer leurs écrits.
Très bien. Merci infiniment Marie-Claude, Christine Demeaux et Étienne de Manito. On arrive donc à la fin de cette émission. La tradition veut que je redonne la parole à chacun pour un petit mot de conclusion. Je commence avec vous, Étienne de Manito.
Je vais conclure sur deux axes. Le premier, l'entité Vexin français, dont on a dit qu'elle était très marquée, très particulière au plan géographique et au plan historique. Marie-Claude a cité également le plan géologique avec le professeur Dominique Frison de Lamotte. Et cette entité, cette particularité géologique du Vexin est un des axes importants de développement culturel dans notre secteur, avec justement ce projet de géoparc qu'a cité Marie-Claude, et des géoparcs, c'est encadré par l'UNESCO, il y en a 200 dans le monde, il y en a 100 en Europe, et donc ça serait vraiment une vitrine et un travail extraordinaire, avec aussi dedans des travaux de la géologie qui avance, par exemple les glissements de terrain. Donc ça, c'est un des axes, je dirais, fondamentaux. Le deuxième, c'est que l'Association des Amis du Vexin français n'est pas seule. On travaille selon tous les partenariats qu'a cité Marie-Claude. Je voudrais citer également la Société historique et archéologique de Pontoise, de Val-d'Oise et du Vexin, qui est un de nos alter ego, presque, sauf qu'elle s'occupe plus de la question purement historique. Le Centre de recherche archéologique aussi du Vexin français, qui est basé à Guéry, très actif. Et puis, je voudrais dire qu'on travaille étroitement avec Villarceau, ça a été cité, mais aussi La Roche-Guyon, repart dans des projets nouveaux avec un nouveau directeur, et on est associé, en tout cas, on va être associé à un certain nombre
vous
de ces projets.
Vous êtes étroitement associé.
Étroitement, j'espère, nous allons voir.
Nous vous le souhaitons, en tout cas. Merci beaucoup, Étienne de Manito, merci pour votre venue. Christine Demeaux, un mot de conclusion.
Je voudrais saluer la nouvelle synergie entre les Amis du Vexin, le PNR et votre radio, qui va être très profitable et qui va nous donner peut-être les moyens de renflouer notre revue, qui est quand même l'image de notre combat et de notre identité. Et j'ajouterai simplement qu'aujourd'hui, le Vexin français a une identité au-delà du Vexin, ce qui n'était pas le cas au moment de la fondation en 67. Oui. Voilà. Maintenant, tout le monde rajoute Vexin à tout.
Oui, c'est vrai.
C'est une grande victoire et c'est une manière
d'avoir
une
belle vie.
Voilà, c'est un label.
C'est ça. Oui.
C'est un label, exactement.
Merci beaucoup, Christine Demeaux. Merci également d'être venue dans nos studios. Marie-Claude, je vous appelle bien Marie-Claude.
Bien
là.
Sûr.
Je vous donne le mot de la fin.
Je rebondis sur ce que vient de dire Christine. Effectivement, il y a 60 ans, le Vexin, personne ne savait que ça existait, sauf les gens qui habitaient dedans.
Bon. Et encore.
Et encore. Bon. Et effectivement, l'appellation Vexin est reprise à des fins souvent touristiques, publicitaires, etc. Et c'est, je dirais, une grande victoire pour l'Association des Amis du Vexin Français, qui sont les premiers à avoir mis en avant l'unité et la spécificité et la beauté. Je reviens sur ce terme de beauté. Il est dans nos statuts, le terme de beauté. La beauté du Vexin.
D'accord, très bien. Mais écoutez, un grand merci à vous, Marie-Claude Boulanger, Christine Demot, Étienne de Manito. Merci pour cet échange passionnant qui nous rappelle que la défense des patrimoines est un combat quotidien mêlant expertise, pédagogie et mobilisation citoyenne. Et j'espère que cette émission pourra vous apporter des fonds pour votre revue. C'est le seul mal que nous vous souhaitons. Merci, Francky, pour la technique. Merci à nos fidèles auditrices et auditeurs. Si cette émission vous a inspiré, eh bien, écrivez-nous sur les réseaux sociaux pour partager vos propres expériences. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mardi, je vous donne rendez-vous pour un événement sur Plaine-Vallée et couvert par IDFM Radio. Donc, à mardi. Mais nos programmes se poursuivent sur IDFM Radio, donc restez connectés après l'économie en direct. À bientôt.
IDFM Radio, 98 FM.
I'm standing in the mirror. I wanna change my skin. Wish that I was tall. Wish that I was thin. Not just a reflection of people's opinions. I'd do it all for you. I'd do it all when you don't love. Don't love me, 'cause I'm ugly, 'cause I'm ugly. Don't wanna touch me, don't wanna fuck me, 'cause I'm ugly, 'cause I'm ugly. I
lo que trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tama mía, corazón está sufriendo.
Quita la mía, por favor.
Sufriendo, malnutrición me está dando. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
IDFM Radio 98 FM.
Dame un grr.
¿Un qué?
Un grr.
¿Un qué? ¿Un qué?
Un grr.
¿Un qué?
Un grr. Un grr. Un grr. Un grr. Un grr.
¿Un qué?
I love when you shake it, shake it. When I see you go, che, 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 che. My body go, go, wake it, wake it. You disagree like a light, go,
figure it. Don't you think it's freaky? We move it slowly, so slowly. I can't wait no more, so hurry, oh, hurry. Dame un tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, 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 ta, ta, tu. Dame un grrrr. Dame un grrrr.
Un qué?
Un grrrr.
Un qué? Un qué?
Un grrrr.
Un qué?
Un grrrr.
I see your face and time stands still. You got that fire, you got that thrill. You walk in and I lose control. You touch my hand, you touch my soul.
Bien sur IDFM Radio.
Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'endroit à gogo. Tous ensemble, on fait le show.
On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuites destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.